19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous. C'est parti pour une toute nouvelle semaine. Ici même, lundi, avec les informés. Pourquoi je dis les engagés, moi? Les informés. Parce que vous êtes engagés. Vous avez raison, parce que vous êtes engagés surtout. Les informés sur Beurre FM de 19h à 20h, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Commenter, analyser, mais aussi décrypter l'actualité. La toute nouvelle première ministre Elisabeth Borne, ça vient de tomber il y a quelques minutes à peine. C'est la seconde femme qui intervient évidemment pour accéder à cette instance de l'exécutif. Après Edith Cresson, désormais, eh bien voilà, une seconde femme pour gouverner l'exécutif. On en parlera. Ensuite, autre sujet, pardonnez-moi, qui a retenu notre attention, eh bien, c'est celui du burkini à Grenoble. Grenoble est divisé sur ce sujet, vous savez. Ah oui, ça dit, le maire, lui, d'un côté, voilà, les maires adjoints de l'autre, et puis la ville qui a décidé de s'emparer de cette question. Jusqu'où irons-nous? Enfin, c'est aussi un autre sujet qui a retenu notre attention, c'est les élus des quartiers populaires qui critiquent la coalition de la gauche, mais qui critiquent tout simplement ne pas être suffisamment représentés dans le cadre des législatives. On parlera des investissements tout à l'heure.
Des investitures. Et des investissements aussi.
Oui. Non, vous avez raison, des investitures.
L'investissement de chacun.
Mais aussi de l'investissement de chacun. Alors, 19h30, on parlera de quoi? Du quoi de neuf? C'est avec Maître Philippe Honegger et son billet d'humeur. À 19h, c'est Yanis Bacha qui, lui, a été investi par l'REM. Il est avec nous dans une poignée de minutes. Et on va parler justement de ses projets, de ses enjeux. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti, tout de suite, on va accueillir, pour démarrer cette semaine, notre premier invité.
Les informés. L'interview,
c'est avec quelqu'un que vous connaissez certainement. Il s'appelle Yanis Bacha. Il a été investi dans la 19e circonscription de Paris. Il est investi par LREM. Bonjour, mon cher Yanis Bacha. Vous êtes avec nous en direct dans Les Informés. Comment ça va?
Bonjour, mon cher Aline. Bonjour à tous.
Plaisir.
Alors, investi dans la 16e circonscription.
Hein. Absolument.
Correspond au 19e arrondissement.
19e arrondissement, absolument. Merci d'être avec nous. Dites-moi, tout d'abord, je voudrais vous faire réagir avant de parler de vous et de brosser votre portrait. La nomination seconde femme qui parvient au plus haut sommet de l'exécutif. Tout d'abord, il s'agit d'Elisabeth Borne. Comment vous accueillez cette nomination?
Avec un immense plaisir. J'avais pris parti pour que ce soit une première ministre, une femme. Un progressiste de gauche. Et ça correspond totalement au profil d'Elisabeth Borne que j'ai la chance de côtoyer durant ce quinquennat dans mes différentes fonctions. C'est une femme très compétente, très sympa en plus, ça peut servir. Mais surtout qui sait mêler des politiques publiques, qui connaît Polytechnique, qui est passé par les RATP, qui connaît justement la machine de l'État, qui sait comment ça fonctionne. Et surtout avec une grande empathie. Et
je pense que c'est ce dont le pays a besoin. Yanis Bacha, vous avez tout juste 29 ans,
oui.
Jeune, prometteur. Vous vouliez, si j'ai bien compris, devenir professionnel dans le football.
Il y a très longtemps, oui, un rêve d'enfant.
C'était un rêve d'enfant.
Que pourront comprendre beaucoup d'auditeurs. Ouais.
Et puis, la rencontre d'un ministre a bouleversé votre vie. Vous pouvez nous raconter un petit peu avant de parler de votre investiture?
Alors évidemment, je suis en situation de handicap, donc ma carrière a été un petit peu coupée dans son envol. Et puis ouais, j'ai pu rencontrer Emmanuel Macron dans un point presse, alors que j'étais journaliste à Canal+. Et puis il s'est passé quelque chose, une sorte de coup de foudre politique, qui m'a donné envie de m'engager avec lui, de tout larguer dans ma carrière pro. Alors je me destinais à devenir journaliste sportif.
Et donc, oui, puisque vous étiez journaliste sportif, exact.
Exactement, à Canal+, et je me suis donc engagé avec lui comme militant, ensuite comme conseiller ministériel. J'ai pu un peu comprendre comment fonctionnait la vie politique dans notre pays, et ensuite j'ai souhaité m'engager autrement, pour des logiques. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être candidat à Paris, dans le 10e arrondissement, l'arrondissement dans lequel j'ai pu grandir.
Vous avez grandi dans l'Est parisien entre la Porte des Lilas et Daumesnil. Yanis Bacha, à l'Assemblée nationale, c'est possible?
Bien sûr que c'est possible. C'est possible, ça dépend évidemment des électeurs, mais c'est possible. Et vous avez dit, vous avez soulevé un point intéressant dans le sommaire, c'est ces élus des quartiers populaires qui râlent parce que la diversité n'est pas représentée dans la coalition de gauche. Ce qui est un comble quand même, puisque pour une coalition qui défend justement les quartiers populaires, les citoyens, j'ai bien souvent qu'on désigne assez injustement comme des citoyens oubliés, ben justement là, c'est comme un investi des personnes issues de la diversité. Je ne sais pas qui c'est, Nato, Laetitia, Dia.
Donc c'est désormais officiel, Yanis Bacha. Vous êtes investi par La République En Marche pour le 19e arrondissement.
Absolument.
Votre candidature, je sais que vous, on se connaît un peu.
Oui.
Vous avez un combat que vous incarnez régulièrement. D'ailleurs, je me souviens avec vous lors du passage d'un déplacement d'Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle à Saint-Denis. On s'était vu d'ailleurs, mon cher Yanis Bacha. On avait échangé sur un sujet qui m'avait frappé. C'était celui de l'égalité des chances. C'est un peu votre combat, si j'ai compris, hein.
Mais l'égalité des chances, c'est le combat d'une vie. L'égalité des chances, la méritocratie républicaine, qui m'a permis de devenir le citoyen que j'ai aujourd'hui, d'avoir permis de grandes écoles. Et ça, je dois à l'école de la République, qui m'a donné une chance, et qui a donné une chance à plein de gamins. Alors évidemment, c'est plus dur, mais comme le dit un rappeur des Hauts-de-Seine, ça fait Bouba. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et c'est ce créneau-là que j'ai voulu cultiver toute ma vie. Et voilà, l'égalité des chances. C'est ma candidature, à défaut de gagner, même si j'espère gagner, je pense qu'on va gagner, peut permettre à deux personnes de s'inspirer, qu'elles soient issues de la diversité, qu'elles soient en situation de handicap, de dire ok, si Yanis Bacha l'a fait, moi je peux le faire. Et bien là, je fais une belle victoire.
Yanis Bacha, vous êtes d'origine algérienne.
Oui.
Vous portez évidemment cette binationalité en vous, hein.
Oui.
Vous en avez évidemment avec vos combats, avec vos valeurs notamment. Vous êtes issu d'un milieu populaire. Yanis Bacha, votre candidature, quel sens donnez-vous à cette candidature, la vôtre ?
La candidature qui représente encore une fois ces quartiers oubliés, ces quartiers auxquels on ne parle pas forcément, qu'on ne va pas voir, qui sont mal représentés. Avec qui on a envie de parler d'écologie, qu'on a envie de parler d'emploi, d'éducation, de jeunesse, avec qui on doit offrir des perspectives d'avenir réelles, pragmatiques, où la politique publique doit réellement insuffler dans tous ces quartiers. Et pas seulement pour ça des terrains de basket ou des événements de temps en temps, mais des réelles politiques publiques où les personnes issues de ces quartiers-là pourront réellement s'émanciper.
Yanis Bacha, vous parlez régulièrement aussi des inégalités. Ça va être un de vos combats si vous êtes élu député à l'Assemblée nationale, la lutte des inégalités.
La lutte contre les inégalités.
Oui, vous avez vu le lapsus. La lutte contre les inégalités.
Bien sûr, et il y a un outil formidable pour le faire. C'est le sport. Le sport qui, évidemment, on voit les Kylian Mbappé, les Zidane, qui sont devenus des stars symboles grâce à leur talent. Mais derrière, il y a des emplois, il y a des perspectives géniales avec le sport, parce que le sport c'est la fraternité, le sport c'est l'égalité des chances derrière un même maillot, c'est la possibilité de pouvoir pratiquer.
Dites-moi, Yanis Bacha, c'est quoi votre conviction? Ça y est, vous allez rentrer en campagne, comment allez-vous convaincre? Quelles sont vos convictions, Yanis Bacha?
Je lance ma campagne demain, au café, au comptoir du temps, métro Pont de la Villette, à 19h, vous êtes tous invités d'ailleurs. Les convictions que j'ai réellement, c'est de, encore une fois, d'offrir à la jeunesse une réelle possibilité de s'émanciper dans notre pays, de leur ouvrir le plus grand champ des possibles, et surtout de se dire que la France est un train qui va vite, qui a des options magnifiques à l'intérieur, et qu'il ne faut laisser personne au bord du chemin. Mais réellement emporter tout le monde. Tout le monde avait sa différence. Voilà. Qu'on soit noir, arabe, handicapé, femme. Que toutes les diversités soient représentées dans ce train et que tout le monde lui gère tout dans cette fin. C'est sa mécano,
oui.
C'est sa conducteur.
Oui. Qu'est-ce que Yanis Bacha, maintenant Elisabeth Borne, va composer son gouvernement? Oui. Je pense qu'on aura une idée d'ici demain de celles et ceux qui vont incarner ce tout nouveau gouvernement.
Oui.
Vous représentez LREM. À quoi peut-on s'attendre justement dans cette nouvelle gouvernance? Emmanuel Macron, le président, le chef de l'État, lui dit lui-même, il y a renaissance. Mais renaissance à quoi? À quoi peut-on? Quel va être essentiellement votre combat si vous êtes élu à l'Assemblée nationale?
Ben, je vous dis encore une fois, mon combat.
Non, mais en dehors, évidemment, mais aux côtés de vos collègues, quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle d'emploi, quand on parle évidemment de quartier populaire, quand on parle de misère, quand on parle d'inflation.
Après, il y a des outils qui existent, encore une fois. Le chèque alimentaire. On peut encore parler aussi des aides sociales à la source. Qui, j'espère, vous pourrez le voir le jour à la rentrée. Les aides sociales à la source, parce qu'il y a des milliards d'euros chaque année qui ne sont pas demandés. Parce qu'aujourd'hui, les contraintes administratives sont trop lourdes. Et nos auditeurs savent de quoi on parle. Mais moi, je viens aussi tous les jours.
Oui.
De la famille, c'est qu'aujourd'hui, c'est le croix et la bannière pour pouvoir toucher une allocation. Et demain, grâce à ces aides sociales à la source, c'est les personnes pourront toucher ces aides sans faire des queues interminables, sans demander si il y en a des droits. C'est réellement un droit à l'aide sociale.
Le rendez-vous est donné. Pouvez-vous nous rappeler donc votre conférence demain, qui se tient demain à Porte de la Villette? Où ça se passe, oui, et à quelle heure?
Alors demain, c'est le café au comptoir du temps, au 35 avenue Corentin Cariou, dans le 19e arrondissement, au métro Porte de la Villette. Il y aura de nombreux invités, des personnalités, des rappeurs, des ministres. Bref, une grande fête populaire, et vous êtes tous invités, même vous, Adil. Après votre émission, n'hésitez pas.
Merci, mon cher Yanis. Le rendez-vous est noté. Donc, tous celles et ceux, évidemment, qui veulent faire vivre l'investiture de Yanis Bacha. En tout cas, écoutez, on vous souhaite bon courage, bonne chance aussi.
Merci.
Mais vous reviendrez sur le plateau en parler, hein?
Mais quand vous voulez, Adil.
Avec plaisir.
J'ai l'habitude de venir pour Time Sport, l'émission juste après vous avec Dylan Edelman. Je peux venir une heure plus tôt pour discuter avec vous dans les informés.
Eh bien, avec grand plaisir, maintenant que
merci,
c'est officiel. Merci Yanis Bacha, à très bientôt.
Félicitations, bonne
merci
campagne.
Merci, tout de suite, on va lancer la pub et on se retrouve. Et je vais dire bonjour à mes débatteurs, influenceurs. Philippe Nadjiboyaki, bonjour, le conseiller régional écolo, bonjour.
Il est là, bonjour.
Ça va?
Ouais, ça va mieux.
Vous êtes rétabli?
Il reste quelques petites réminiscences.
Vous nous avez fait des frayeurs. Hein.
Moi aussi, ouais, des grosses frayeurs.
Ouais, photos publiées sur les réseaux sociaux,
ben ouais.
À l'hôpital, sur allée d'hôpital.
C'est ça, dans un couloir aux urgences, à Henri Mondor, pendant 13 heures.
Ça va mieux?
Ça va beaucoup mieux, mais l'état de l'hôpital est catastrophique. Blague à part.
Il l'avait dit, le docteur Majidou Sine, souvenez-vous, ouais, dans ses chroniques.
C'est vrai.
Il avait dit quoi?
Mais je pensais pas à ce point.
Ben, il l'a dit. Il avait dit, ça fait des mois qu'il en parle. Hein.
C'est légitime.
Il y a des mois qu'il attire l'attention. Amine Sah, le maire adjoint de la Courneuve, comment ça va?
Très bien, et vous, Adil Farkan?
Ça va bien. Vous n'avez pas été investi, vous?
Non, non, mais je n'avais pas sollicité l'investiture de la NUPS.
NUPS,
bon, en l'occurrence.
Qu'est-ce que vous comptez faire, alors?
Bah, écoutez, je soutiens un député candidat, enfin un candidat à la députation dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est un secret pour personne. Asdine Taïbi, qui est l'actuel maire de Stains.
Asdine Taïbi, à qui je lance l'invitation, il sera ici même.
Je lui transmettrai.
Vous lui transmettrez, hein?
Je lui transmettrai.
Mais je lui avais répondu, mais vous lui redirez.
Très bien.
Il viendra parler de son investiture.
Oui, ou
non.
Non.
Ou non. Pourquoi? Non,
parce que justement, il n'a pas été investi, mais on y reviendra, puisque je crois que c'est l'un des sujets qu'on va aborder.
Le connaissant, il ne relâche rien. Hein.
Ben, écoutez, la date des dépôts de candidature est court jusqu'au 20 mai. J'espère qu'on va pouvoir tous se rassembler.
Allez.
Derrière sa candidature.
Absolument.
Mais on aura l'occasion d'y
aller. On lance la pub et on se retrouve tout de suite dans une poignée de minutes. Vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. On va parler de cette toute nouvelle fraîche nomination. La seconde femme qui se retrouve à la tête de l'exécutif, Elisabeth Borne. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec tout de suite Amine Saha, mais également aussi Philippe Nadji Bouriaki. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face. Aujourd'hui, bonsoir messieurs, rebonsoir messieurs. Là, tout, c'est désormais officiel. Ça y est, la seconde femme à incarner le gouvernement, c'est madame
Elisabeth Borne.
J'ai failli dire Edith Cresson.
C'était il y a longtemps, ça. Il a droit à une clochette. Hein. Là, tu collectionnes les clochettes, toi. Hein. Attention. Hein. Elisabeth Borne, nommée, on ne dit plus Premier ministre maintenant. Première ministre.
Ah, c'est bien.
Elle va falloir Première ministre. Hein. Il va falloir s'y habituer. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un vrai changement à la tête de ce gouvernement, messieurs ? D'abord, comment vous réagissez ?
Non, son changement, non, parce que c'est la continuité. Elle a été quand même ministre du Travail, ministre de l'Écologie, en remplacement de Rugy, était ministre des Transports, donc elle est dans le gouvernement depuis le début, en plus depuis 2017, une continuité puisqu'elle était avant directrice de cabinet de Ségolène Royal et puis elle est devenue présidente de la RATP de 2015 à 2017 et hop, tout de suite elle a enchaîné. C'est une ancienne préfète, c'est une ingénieure en pont et chaussée, c'est-à-dire que bon, elle a
une vraie techno.
Une vraie techno, une vraie technicité. C'est-à-dire que c'est une férue de travail. Hein, quand t'arrives pas.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'elle incarne mieux que quiconque, finalement, pour incarner cette transformation du pays qui nous attend.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en tout cas, elle est dans un système qui existe et qui perdure, hein, qui est passé. Alors on la qualifie plutôt à gauche. Moi, je l'ai connue en tant que président de la RATP. J'étais agent de la RATP. Oui. Et j'étais délégué syndical, donc j'avais pas l'impression d'avoir eu affaire à quelqu'un de plus tendre que Mongin, qui était directeur de cabinet de Balladur à l'époque, qui était président de la RATP juste avant Elisabeth Borne, qui était déjà un président très dur avec Elisabeth Borne. C'était très compliqué, vraiment. Elle a accéléré la transformation de la RATP en vue de la privatisation. Donc c'est une femme qui maîtrise ses dossiers, qui est une férue et acharnée de boulot. Ça, personne ne pourra lui reprocher. Parce que vous n'êtes pas ingénieur et pont-chaussée en regardant le ciel. Il faut vraiment gratter, il faut vraiment travailler.
Ouais, vous avez raison.
Ouais, c'est une des meilleures écoles au monde.
Faut
être un bosseur et apprendre à accumuler. Donc ça, elle en est capable. Elle va mettre en place la politique que le président va lui mettre en place. Maintenant,
on dirait qu'il aime bien Emmanuel Macron, les technos, non ?
Il
en est un lui-même.
C'est un énarque.
Mais c'est parce que c'est quoi ? C'est rassure ? C'est quoi ? Ouais. C'est, bah, il en ça est rassure est-ce qu'il a envie d'être rassuré ? Est-ce qu'il a envie de quelqu'un qui est plutôt techno à ce poste-là pour s'assurer justement du suivi véritable des dossiers ?
On est rentré depuis quelques années dans une nouvelle ère politique où la crédibilité politique se gagne par la technicité finalement. Et c'est ce qu'a incarné Emmanuel Macron en 2017, puisqu'il avait à peu près le même parcours que sa première ministre aujourd'hui. Mais enfin, il faut quand même dire ce qu'il y a derrière cette nomination.
Oui, il y a quoi derrière cette
nomination ? On avait le collaborateur de Nicolas Sarkozy en la personne de François Fillon. On a la directrice de cabinet en la personne d'Elisabeth Borne auprès d'Emmanuel Macron. Donc il sera en quelque sorte lui-même le Premier ministre au travers d'Elisabeth Borne. Donc moi j'ai pas. Enfin après il y a aussi quand même une volonté de brouiller un peu les pistes puisque,
c'est-à-dire,
comme le disait Philippe à l'instant, c'est une personnalité qui vient ou en tout cas qui a eu des proximités avec ce qu'on appelait les
personnalités. Elle est jeune,
les personnalités de gauche, donc elle a travaillé auprès de Ségolène Royal, et donc je crois qu'il y a une volonté aussi de la part d'Emmanuel Macron de dire, bah vous voyez, face au grand rassemblement de la gauche qui est en train de s'opérer, moi, vous voyez, je vais peut-être,
je fais du social.
Voilà, je vais aller dans cette direction-là. Bon, personne n'est dupe. La réalité, c'est que elle sera dans la droite ligne de ce qui a été fait jusqu'ici lors du précédent quinquennat. Et puis par ailleurs, vous savez, c'est une première ministre de transition, puisque quoi qu'il arrive, bon, aujourd'hui, la 15e législature s'est terminée. Aujourd'hui, le président de la République, il n'a pas de majorité encore à l'Assemblée pour pouvoir gouverner. Et donc, c'est une première ministre nommée, mais qui n'a pas encore, on va dire,
la
légitimité de par l'Assemblée avec un vote de la déclaration politique générale. Voilà.
C'est ça.
Quand le président de la République aura la majorité à l'Assemblée, ce qui n'est Absolument. Pas encore le cas.
Ouais. Et c'est pas Philippe Nadji Bouriaki, oui.
Je rebondis à ce que tu dis par intérim. Je rebondis sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon il y a 2 heures. Il y a un tweet peu élégant et fort mégalomane.
C'est-à-dire,
il dit, grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. Sera-t-elle de droite ou bien de droite? Personne ne veut le job, c'est un CDD de mission d'intérim. Donc
clochette.
Direct.
Vas-y, tu peux y aller, hein, charge.
Non, mais en plus, il est du même acabit que celui d'Olivier Faure, qui dit point positif, c'est une femme première ministre. Donc je suppose qu'il est plus favorable à ce que ça soit Mélenchon premier ministre. Donc tout va bien dans la NUPS ou dans les dupes. Pour le reste, nomination de la ministre des Transports qui a démantelé le service public ferroviaire. Je rappellerai quand même Guesso qui a démantelé le service public aérien, ministre socialiste. Ça, c'est petite dédicace à mon ami Olivier Faure. Le service alors, de l'écologie condamné pour incitation climatique. Je rappellerai que la condamnation date, fait sur la période de 2015 à 2018. Peut-on lui rappeler qui était au pouvoir de 2015 à 2017? Voilà, monsieur Olivier Faure, il a quelques problèmes. Là, faut pas voter pour lui. Hein. Je crois vraiment que là, il devient amnésique, la petite. Non, mais il fait peur, là. Il fait des sénines.
Philippe Ladjiboye, qui est notre conseiller écolo, a décidé de se lâcher ce soir.
Le type a tellement bouffé son chapeau qu'il oublie son passé.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Vous avez vu les lumières?
Non, mais je sais pas. Non, mais parce que moi, j'y crois pas, ce truc de dupe, dupes, flûte, tu peux mettre ce que tu veux. Attends, les types se sont crachés dessus pendant un an, et en l'espace de trois semaines, ils disent, non, c'est bon, on a compris nos erreurs. Non, on est en train de sauver la gamelle, on est en train de sauver des postes, on est en train de sauver.
Moi, ce qui m'intéresse, messieurs, c'est.
Des Marocains à l'Assemblée nationale. Voilà,
Deuxième femme.
Des sièges,
deuxième
Marocains,
femme.
Non, mais bien sûr. On peut se réjouir qu'une femme soit de retour à Métignon après 30 années.
Je vous rappelle qu'elle dit que c'est pas les Français qui sont machistes, c'est la politique qui est machiste.
C'est vrai. D'ailleurs, partout dans la société.
On est en retard, la France. Hein.
Ah, mais
on est en ça fait belle lurette, les amis.
En politique, c'est là où il y a plus de retard sur la représentation des femmes. Et ça, on en est tous d'accord. Par ailleurs, on aurait pu légiférer pour permettre à ce que l'Assemblée nationale soit totalement paritaire, comme on l'a fait dans les conseils départementaux, etc. Ça n'a pas été souhaité, on peut se poser la question. Voilà. Donc, moi, alors évidemment, on peut tous se réjouir qu'une femme revienne à Matignon, mais ça ne peut pas suffire. Et puis, par ailleurs, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que Mme Borne, elle a quand même l'habitude du dialogue avec les syndicats, elle a l'habitude de cette, comment dire, de cette confrontation avec les syndicats. Et donc, ça ne présage rien de bon pour celles et ceux qui s'en réjouissent dans la société aujourd'hui. Donc,
tiens, est-ce qu'on peut retrouver un peu le direct? C'est aussi ça, les informer. On a la possibilité de se connecter en direct, parce que je vois les huissiers sortir.
Là, et
je crois que Jean Castex s'apprête d'ailleurs à dire un mot de revoir, s'exprimer. Il faut le son, mais je crois qu'il y a Kianis, le réalisateur, qui peut nous brancher. Non, je parle du direct, hein, la vidéo en direct, parce que.
Ah, ça applaudit, on dit. C'est un concert.
On est en direct, et justement. Jean Castex qui est accueilli chaleureusement. Évidemment, j'imagine que c'est les équipes de Matignon, tout le personnel de Matignon qui est présent.
C'est sûr que c'est pas les gilets jaunes.
Madame,
BFM.
Madame la Première Ministre.
Ah, Monsieur voilà. Madame, il a insisté sur Madame la Première Ministre. Donc c'est une bonne chose. Hein, après Edith Cresson, désormais... une seconde femme dans l'histoire.
Bah oui,
même si la France est très en retard.
Ça dit quelque chose, on en est tous d'accord, mais ça ne peut pas suffire.
Ouais, ça ne peut pas suffire.
Ça ne peut pas suffire.
Allez, on va retrouver Jean Castex tout à l'heure, mais tout de suite pour l'heure, c'est le billet d'humeur, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec Maître Philippe Henri Honegger. Vous nous avez manqué, Maître, bonjour.
Moi aussi, vous m'avez énormément manqué.
Ah ouais, non, mais franchement, vous nous avez beaucoup manqué. Ça va, mon cher Maître?
Ça va très très bien.
Bon, vous avez décidé de nous parler ce soir dans votre édito, dans le Quoi de Neuf, de quelque chose d'assez à côté, évidemment, sorti de l'actualité. Et là, on va aller direction People. On vous écoute.
Bah oui, parce qu'après cette longue période d'absence, on se retrouve. Le temps est beau, il fait chaud, c'est ensoleillé. On se croirait presque en été. Et quoi de mieux en été que la saga de l'été, avec de l'amour, de la haine, de la violence, des trahisons et des stars.
C'est ça.
Et oui, des stars, parce qu'en l'occurrence, l'affaire, les premiers ministres, on s'en fiche, l'affaire qui est au cœur de toutes les préoccupations du français, c'est le procès entre Johnny Depp et Amber Heard.
C'est vrai.
C'est ça qui nous intéresse vraiment pour cette saga de l'été. Et on a tous les éléments pour que ça marche. Et puis surtout, ce qui est magnifique dans cette affaire, c'est qu'elle est filmée. C'est-à-dire que les procès aux États-Unis, ils sont filmés du début à la fin. Et ça, c'est extraordinaire. Avec ce procès, donc, qui est un procès en diffamation. Alors, il faut bien expliquer ce que ça veut dire pour nos auditeurs. C'est-à-dire que on a une personne qui fait des allégations publiquement, en l'occurrence Amber Heard, qui dit « j'ai été victime de violence ». Et celui qui estime que ces allégations sont fausses a le droit de poursuivre cette personne pour démontrer que ce qui a été dit est faux, oui, et laver son honneur. Ouais. Et ce qui est magnifique dans les procès en diffamation, c'est que alors que le procès pour violence, c'est-à-dire est-ce que Johnny Depp a commis ou pas les violences, ce procès n'aura jamais lieu, en réalité on fait un autre procès dans lequel il faut prouver que les violences ont eu lieu de la part de Amber Heard pour prouver que c'était bien de la diffamation ou pas de la diffamation. En gros, on refait le procès. Devant les caméras du monde entier, sur les petits, les moyens, les grands écrans, tout le monde regarde, encore plus de spectateurs que Pirates des Caraïbes. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous allez me dire, c'est dommage ou pas, exact, qu'on n'ait pas ça en France. Parce que c'est vrai qu'on a eu un exemple en France, avec un peu retentissant comme ça d'affaires de diffamation. C'est l'affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Denis Baupin, l'homme politique écologiste, qui avait été accusé publiquement d'agression sexuelle au sein de son parti, qui avait fait un procès en diffamation contre les femmes qui avaient posé plainte contre lui. Mais le pauvre, toutes les femmes s'étaient succédées, avaient toutes donné des témoignages plus accablants les uns que les autres, et il avait tout perdu, parce qu'à la fin, non seulement il avait perdu son procès, mais il avait été complètement enfoncé par cette affaire. N'est pas Johnny Depp, pirate des Caraïbes, qui veut. Mais en revanche, vous savez, il ne faut pas perdre tout espoir. Peut-être aurons-nous, nous aussi, notre saga de l'été à la française, parce que depuis quelques semaines, a été autorisée en France, vous le savez, la possibilité de filmer les procès. Et donc c'est possible, bientôt on va pouvoir les filmer. Et vous savez, c'est bientôt le festival de Cannes, alors on peut commencer à faire le casting. Et c'est vrai que là, pour le coup, en France, les candidats ne manquent pas. Imaginez les têtes d'affiche avec Darmanin, Zemmour, Patrick Bruel, Depardieu.
Clochette.
On a tout ce qu'il faut.
Le festival de Cannes démarre mardi prochain.
Les pop-corn.
Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Je disais, le festival de Cannes qui démarre mardi prochain.
Bah oui, culture.
Vous avez raison de nous rappeler effectivement cette plongée et puis ce coup de projecteur sur évidemment le procès des People. C'est vrai, on en parle très peu. Pourquoi?
On en parle beaucoup, mais c'est surtout, moi je trouve toujours un peu gênant d'avoir ces gens qui sont des gens comme nous et moi et qui se retrouvent à dévoiler les détails les plus sordides de leur intimité devant la planète entière. C'est un peu dommage.
Vous savez ce qu'on lui propose, maître Philippe Honegger? On va appeler Johnny Depp et on va lui proposer que, évidemment, votre...
Qu'on en débatte.
Qu'on en débatte et puis surtout que vous soyez son conseil.
Ah ben oui, ben bien sûr, avec grand plaisir.
Ben je pense, et c'est ça le plus important, je pense. Merci maître Philippe Honegger, toujours avec toujours autant de plaisir. Dès lundi prochain, vous retrouvez pour un autre regard du Quad Neuf. On est d'accord?
Allez, ça marche, à lundi prochain.
Je vous souhaite une bonne semaine.
Vous aussi, ouais.
19h34, on marque la dernière pause pub et on se retrouve tout de suite après. Nous allons parler, vous savez quoi, eh bien du burkini à Grenoble qui divise et qui continue de faire parler de... qui continue de faire surtout polémique. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Merci. 19h41, le face-à-face 01 53 48 3000. Tout de suite, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et vous donne la parole, et Yanis vous attend au standard si vous souhaitez commenter le burkini qui divise sur la ville de Grenoble et un peu partout ici, notamment avec Philippe Nadji Bouyaki, mais aussi Amine Saha, le maire adjoint de la Courneuve et le conseiller régional donc écolo. Et messieurs, tout de suite, ce burkini qui divise et qu'on continue de faire polémique, vous savez quoi, sur la ville de Grenoble, tout simplement, les opposants et puis aussi la question du burkini dans les piscines municipales. Pourquoi elle fait tant débat? Pourquoi elle fait tant polémique? Pourquoi l'enflamme les débats en France, messieurs Amine Saha?
Vous venez de le dire, Adil Farkan, c'est pas un débat, c'est une polémique.
Mais le port du burkini, en soi, il n'est pas illégal. Mais
évidemment, et d'ailleurs, le défenseur des droits, Jacques Toubon, l'a rappelé en disant que c'était qu'il n'y avait aucune difficulté juridique derrière ça. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une sorte de voie de bifurcation pour éviter d'aborder les vrais sujets, encore une fois. Et donc, on le disait avant la présidentielle, il y avait tous ces sujets un peu nauséeux qui revenaient au devant de la scène. Et là, c'est un sujet parmi tant d'autres encore qui n'a pas lieu d'être et qui revient, encore une fois, dans le débat public.
C'est le maire écologiste de la ville. C'est le maire écologiste, votre collègue, c'est d'ailleurs, qui était favorable à cette demande.
Oui, et ensuite, après, ce soit lui qui crée la polémique.
Non, c'est pas lui, c'est en interne. Voilà. C'est les gens de son camp qui créent la polémique.
C'est quand même récupéré par certains médias, c'est récupéré par certains médias.
Oui, mais c'est les gens de chez lui d'abord, rappelons-le. Donc il est mis en porte-à-faux, le maire.
Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord. Mais moi, la seule. Enfin, ma ligne, ma seule boussole, c'est la liberté. La liberté de manière générale, et puis la liberté des femmes en particulier. Elles doivent pouvoir.
Vous savez que certains disent qu'ailleurs que la laïcité est menacée. Hein. Oui, ça va jusque-là.
Oui, oui, ils disent beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que les femmes.
La laïcité est menacée, on aura tout entendu.
On aura tout entendu, exactement. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas aux législateurs de décider comment les femmes doivent se vêtir ou se dévêtir. Et donc, moi, ma seule boussole, c'est la liberté des femmes de se vêtir et de se dévêtir comme elles le souhaitent.
Oui. Oui, non, mais vous avez raison, Aminsa, c'est vrai. Vous avez raison.
Qu'est-ce Philippe qu'on peut Nadji dire de plus, finalement
Philippe Nadji Bariko.
Moi, j'ai eu un débat enflammé avec mes copains
dentaires. Non, parce que je lis un commentaire, là, il dit s'il y a le burkini, bah, alors dans ce cas-là, on fait les seins.
La loi de 1905 est assez claire et elle est assez efficace en réalité. On a déjà légiféré en 2004, justement, pour complexifier encore la situation. On va pas légiférer tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour restreindre encore les libertés.
Non, mais ils te disent désormais, si on autorise le burkini, bah alors les seins nus qui peuvent être autorisés aussi dans les piscines.
Mais c'est ce qu'a dit Eric Piolle, de toute façon. Hein, il se battait pour les seins nus, et y compris pour les seins nus pour les hommes. Donc, ouais, il est parti un petit peu loin. Je te disais, j'avais un débat enflammé avec des copains de Nanterre là tout à l'heure là-dessus.
Et alors
c'est pas compliqué. C'est soit il y a des règlements intérieurs dans les piscines. Et les piscines communales sont soumises au règlement intérieur qui est voté par le conseil municipal. Soit on considère que le burkini, comme la combinaison de plongée, pourrait poser un problème de salubrité, et à ce moment-là, il est interdit, et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre, comme les shorts.
Sauf que c'est pas le débat qui est.
Oui, on sait bien.
Il a raison, mine de le rappeler, c'est vrai, c'est pas ça.
Non, mais la fachosphère, je joue là-dessus en disant, ouais, c'est la laïcité qui est en danger, donc moi, si j'ai une personne dans la piscine avec une croix, ou une étoile, une magaine de David, donc c'est la laïcité qui est en danger aussi.
Ou la main de Fatma.
Ou la main de Fatma. Ouais.
Dans ce cas-là, alors on fait quoi?
Alors, on fait quoi? Est-ce que le bijou pose un problème de salubrité?
C'est révélateur du fait que ce sont de faux débats, en réalité.
Mais non, mais on sait bien. Mais c'est bien.
Non, mais le problème, ça. Hein.
Non, mais le problème, c'est qu'on est pris dans la tempête à chaque fois.
Vous vous sentiez à l'aise dans votre siège, mais quand même, on le fait de la radio. Donc, il faut être proche du micro pour être entendu et audible.
Je disais tout simplement que ce sont de faux débats.
Non, mais faux débats pour nous, mais pour le français lambda, non, pas forcément.
Si vous souhaitez le commenter, 0153483000.
Comme un acte de soumission, comme un acte de grand remplacement, si tu veux. Pendant des mois et des mois.
Il a raison, Philippe, c'est surtout ça.
Non, mais ils ont été bercés avec ça. Donc, à un moment donné, quoi que tu fasses, boum, t'es obligé de rentrer dedans.
Non, je suis d'accord, mais il faut qu'on regarde les choses par le prisme de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce que la loi l'interdit aujourd'hui?
Non.
La loi ne l'interdit pas.
Dans les piscines, c'est interdit.
Non, c'est pas illégal.
C'est interdit, il y a un règlement intérieur.
Alors, non, c'est pas illégal.
Là, c'est le si le règlement, pour d'autres raisons.
Ah oui, le règlement. Alors, le règlement,
d'autres
mais sinon, raisons, c'est pas illégal.
Explique que c'est pas possible. Alors là, c'est autre chose.
Yannis, on va prendre des appels au 0153483000.
Il n'y a pas d'interdiction.
Je vais te dire, l'année dernière, moi, j'étais dans un centre de vacances. Et il y avait.
C'est pas illégal, les amis. J'ai fouillé cet après-midi.
En burkini, qui était
sur Transat. Tout le monde le rappelle.
Oui, il le rappelle.
Je l'attends que vous ayez fini. Vous êtes bien tous les deux. C'est fait, le ramadan est fini. Je peux vous ramener des cafés, du thé. Je peux être utile, là, si
un
vous voulez.
Espresso.
What else?
Non.
Non, je disais que moi, j'étais dans un centre de vacances et le directeur est venu faire un petit peu le tour des bungalows pour dire voilà, on a une vacancière. Il n'y avait pas grand monde en plus début juillet pour dire on a une vacancière qui, malheureusement, est obligée de rester sur le transat parce que le burkini, malheureusement, dans le règlement intérieur, ne le permet pas. J'ai dit, mais on ça dérange qui? Et donc, en fin de compte, il a dit, s'il y a une personne
à qui ça dérange
et là, tout le monde a dit, non, mais attendez, il est hors de question que nous, on puisse aller dans la piscine avec nos enfants et qu'elle, elle est obligée de regarder ses enfants tout seul dans la piscine. Mmh. Donc, comme quoi.
Mais qu'est-ce qui était avancé pour interdire dans le cadre du règlement intérieur?
laïcité.
Oui, mais sauf que là, le règlement intérieur s'appuie sur un texte qui ne l'interdit pas. Donc, le règlement lui-même n'est pas en respect de la loi.
Le règlement intérieur prévoit que tout signe ostentatoire.
C'est la réglementation, en gros.
Voilà.
C'est la réglementation.
Tout signe ostentatoire.
Des mairies.
Tout signe ostentatoire. C'est-à-dire que.
Si le conseil municipal
là, c'est
prononce.
Parce qu'on était dans le cadre du service public. On était dans un service public.
Voilà.
Ça, c'est autre chose.
Allez, messieurs, nous allons direction le standard. On va aller, tiens, direction Grenoble, tiens. Amadou, ça fait longtemps, Amadou.
Ouais, salam alaykoum, alaykoum, Moubar, salam alaykoum, moi j'interviens Eric Piolle, ce qu'il a fait, lui, il a interprété la laïcité à sa compréhension, mais il y a des femmes qui disent que comment dire, c'est contre la liberté des femmes. Bon, ils projettent leur jugement envers les sœurs musulmanes, ils utilisent la laïcité contre l'islam. Et les politiques, eux, ils n'ont jamais amené des religions, que ce soit le christianisme, parce qu'il y a le voile chrétien. Le voile chrétien, ça existe dans notre pays. Donc, c'est les citoyens qui sont libres, elles ne font pas. L'État n'a rien à voir avec l'action politique, n'a rien à voir avec l'action religieuse. C'est deux actions, comment dire, qui n'ont rien à voir.
Bon,
c'est ma compréhension, il y a une bonne compréhension.
Merci Amadou.
Je crois
de Grenoble, justement.
Sur ce sujet.
Allez, on va passer au dernier sujet, messieurs. Une centaine d'élus responsables, justement, locaux. Je veux parler des législatives, des élus de quartier populaires, critiquent vivement la coalition de la gauche. Parce que on parle de parachutage, parce que on parle de sous-représentation des gens issus des quartiers, des gens issus de la diversité. Que se passe-t-il, messieurs, vous-même issus des quartiers populaires? Qu'est-ce qui se passe, justement? Est-ce que les quartiers réclament, à juste titre, justement, que les territoires d'avenir, c'est aussi cette république, les quartiers populaires, déclaraient certaines figures de la politique? Philippe Nadjibouriaki.
Évidemment. J'avais fait un tweet là-dessus, j'avais dit ils veulent bien du vote de nos maires, mais ils veulent pas avoir leurs enfants sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Ça.
Et je continue à dire, excusez-moi, mais moi j'ai plein de potes à la France Insoumise et je sais que c'est des vrais militants, que c'est des vraies personnes qui vont mettre des choses en place s'ils sont élus. Je leur souhaite d'être élus, mais je continue à dire que la globalité de la France Insoumise, c'est-à-dire que là-haut, dans la dernière fusée de cette pyramide, c'est une arnaque en bas. Qui effectivement a dit des mots à destination des gens des quartiers populaires, et c'était quasiment le seul à le dire, et donc il en a récolté les fruits, Jean-Luc Mélenchon. Mais dans l'application des faits, je suis désolé, tous ceux 2% des 577 candidatures sont issus des quartiers populaires ou de la diversité.
2%
des 577 candidatures.
C'est terrible.
Si ça, c'est pas une arnaque, et attention. Je te parle même pas des circonscriptions.
Ah, vous parlez d'arnaque,
des circogagnables. Dans des circogagnables, on a que les copains, des copains, des copains. Tous les autres, ils vont à canon, ils vont ramener un pourcentage de voix qui va ramener du financement public dans la caisse de la France Insoumise, parce que la NUP, c'est ce qui englobe le ramassis d'une coalition qui se détestait il y a encore un mois, et aujourd'hui, quand je vois la vidéo du clapping de fin à leur convention, j'ai envie de vomir. Quand je vois Olivier Faure comme ça qui se fait claquer la joue par Jean-Luc Mélenchon comme un bon petit caniche, ben je dis respect, déjà bravo Jean-Luc pour le braquage. Magnifique, il avait fait la même chose en 2017.
Mais comment? Non, mais il est pas fort, Amine.
Ben ouais, mais en 2017, il avait réussi que le vote des militants lui soit favorable, et donc il s'est imposé de fait au Parti communiste. Et en 2022, il a fini le boulot que Macron avait commencé en 2016, c'est d'atomiser toute la gauche et de faire en sorte que cette nébuleuse soit uniquement derrière lui et à son service. Donc là-dessus, je continue à dire que les enfants des quartiers populaires sont bien fait avoir, et je le dis. Si la personne
se sont fait avoir,
si le candidat
Clochette
qui est chez vous, c'est la vérité.
Ah oui.
Mais regarde, c'est factuel. Regarde Azine Taïbi, je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir.
Le maire de Saint, vous voulez.
Mais le maire de Saint, qui a été le premier à soutenir Jean-Luc Mélenchon, qui l'a parrainé, qui a fait le job.
Porte-parole.
Et le mec,
c'est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.
C'est juste extraordinaire. Donc moi, ces gens-là, j'ai pas le leçon à recevoir d'eux. Je ne veux plus qu'ils utilisent le combat de l'antiracisme pour essayer de nous représenter. On peut se représenter sans eux. Et j'appelle les copains et les copines qui m'entendent, pas parce qu'on est en colère ou quoi que ce soit.
Karim Alouache avait fait le même coup de gueule que vous.
Mais c'est légitime.
Il est assis là.
Faites-les battre, tous ceux et toutes celles qui seront dans vos quartiers.
Donc en gros,
qui ne vous ressemblent pas.
Prenez-vous en charge.
Non, mais c'est pas grave s'il y a des parachutages, si ça vous ressemble. Mais si ça vous ressemble pas, faites-les tous battre pour leur faire comprendre.
Vous dites quoi, Mille, ça ?
Soit vous faites avec nous, soit on fera contre vous.
Ah, allez, plusieurs clochettes.
Bon, d'abord.
Coup de gueule de Philippe Nadjibouriaki.
Moi, je suis un peu plus mesuré que Philippe. D'abord, il s'est passé quelque chose. Il y a eu ce premier tour des présidentielles où les électeurs de gauche en particulier ont envoyé un signal en disant arrêtez vos tambouilles, arrêtez vos divisions, rassemblez-vous, et ça a été le sens du vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, oui. Et qui a été dans les quartiers populaires très plébiscité, il faut le dire. Moi dans ma circonscription c'est plus de 60%, en Seine-Saint-Denis de manière générale je crois que c'est un des contingents de voix de Jean-Luc Mélenchon assez important, et donc ce signal là il aurait dû être suivi de fait, et donc moi j'ai cru que cette coalition, ce rassemblement ne laisserait pas paraître de difficultés, mais il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, et dans la circonscription dans laquelle je suis, où moi-même j'étais candidat, et c'est pas un secret, je me suis retiré parce que il y avait un candidat qui devait être investi, qui est Azine Taibi, vous le disiez à l'instant,
le maire de Stain,
et qui au final ne l'a pas été. Et donc, qui sera tout de même candidat, et je souhaite qu'il gagne, qui est un candidat, excusez-moi, mais moi, si je me suis retiré pour défendre sa candidature, c'est parce qu'il apparaissait comme étant le plus unanime à gauche, comme étant celui qui représentait les quartiers populaires. Et par ailleurs, il était le vice-président du Parlement populaire. Et donc... Moi, j'ai pas compris ce genre de difficultés qui sont survenues au lendemain de cet accord. Et donc, j'espère encore que le rassemblement va pouvoir se faire derrière ce candidat naturel, et que ce sera le cas dans d'autres circonscriptions où les candidats des quartiers populaires ne sont pas respectés.
Est-ce que vous l'entendez, le message de Philippe Nadji Bouriaki, en disant effectivement les personnalités issues des quartiers populaires sont sous-représentées, mais surtout qu'on parle de 2%, mais surtout quand on parle d'Azine Saïdi, Azine Taibi, pardonnez-moi. Azine Taibi, le maire de Stain, qui lui était porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui a investi, qui a tout donné, et qui au final se retrouve avec des cacahuètes. Pardonnez-moi l'expression.
Ben c'est le jeu des accords. C'est voilà, il en pâtit aujourd'hui. Cette circonscription a été quelque part. Enfin, ce qui aurait dû se passer, c'est que dans cet accord, pour vraiment aller au bout de l'accord, il aurait fallu que les investitures soient désignées en commun, pour qu'il y ait des candidatures communes à toute la gauche. Ça, c'est pas ce qui a été décidé. Il y a un certain nombre de circonscriptions qui ont été fléchées par mouvement politique, par groupe politique, et donc par étiquette. Et c'est ce qui rend un peu faible cet accord de ce point de vue-là.
Mais comment est-ce que finalement, pardonnez-moi de vous interrompre parce qu'on rend l'antenne dans bientôt, est-ce que finalement, un peu comme dit Philippe Nadji Bouriaki, il faut que les quartiers populaires se prennent en main?
Bien sûr qu'il faut qu'ils se prennent en main.
Est-ce que c'est leur responsabilité
désormais? Il faut refuser les apparatchiks, il faut refuser les parachutages. Moi, je suis contre les parachutages.
Les parachutages,
et donc,
non.
Là où il y a des candidats qui apparaissent comme étant des candidats naturels, comme dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis, il faut que ça puisse prendre forme.
Merci à Minsa, maire adjoint de la ville de Courneuve.
Merci à vous, et puis rendez-vous samedi 21 à 16h à Stain pour le lancement de la campagne d'Azine Taibi.
Tous au rendez-vous. Merci Philippe Nadji Bouriaki, conseiller régional écolo. Merci à vous, merci à Yanis à la réalisation. Time Sport, Bilal Nedman vous retrouve de 20h à 21h et son riche programme pour vous embarquer justement dans cette actualité sportive. À demain, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.